Nicolas van der Weyde, qu'est-ce qui vous frappe entre 84 et 2026? Qu'est-ce que vous voyez particulièrement comme évolution de la médecine? Qu'est-ce que vous avez constaté avec vos yeux de cette histoire de la pédiatrie, histoire plus récente?
Fort pour les enfants, podcast sur le bien-être des enfants avec Jonas Schneider.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Pédiatrie Suisse. On accueille notre invité dans un instant, mais d'abord il faut qu'on vous dise que c'est un épisode un peu particulier puisque nous sommes ici au congrès de Lausanne en public. Et c'est un podcast que nous enregistrons donc dans des conditions live avec Nicolas van der Weyde. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous êtes le président de Pédiatrie Suisse. Vous êtes avec une grande expérience de la pédiatrie. On va traverser avec vous l'histoire de la pédiatrie. Vous êtes donc pédiatre et hémato-oncologue. Vous avez travaillé notamment au CHUV à Lausanne, puis à l'hôpital pédiatrique universitaire de Bâle. Nous sommes en 2026, c'est le 125e anniversaire de Pédiatrie Suisse. Alors allons en 1901 avec vous, si vous êtes d'accord. À quoi ressemblait la pédiatrie en 1901? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'état de la pédiatrie à la création de Pédiatrie Suisse?
Alors bonjour à tous et toutes. Effectivement, c'est une longue histoire. Moi, j'ai pas 125 ans, comme vous pouvez imaginer. Heureusement, donc je peux pas vous dire exactement comment c'était. On a quand même quelques histoires qui nous sont parvenues, et c'est clair que c'était le début de la médecine pédiatrique dans le sens où on a commencé à considérer l'enfant non plus comme un petit adulte qui devait avoir un petit peu les mêmes problèmes, mais comme un être vraiment à part entière. On a commencé à établir aussi des hôpitaux pédiatriques qui étaient très différents de ceux qu'on a maintenant. On pourra discuter aussi des développements dans le milieu hospitalier. Mais c'était vraiment les premiers balbutiements, en fait. Et il faut s'imaginer qu'en 1901, il y avait quasiment aucun traitement, si on veut. Au fond, on pouvait peut-être faire certains diagnostics qu'on peut faire maintenant. On pouvait certainement les faire moins bien, moins rapidement. Mais surtout, on n'avait aucun traitement. C'était une époque avant les antibiotiques. C'était une époque avant la majorité des vaccins. Donc, au fond, lorsqu'un enfant avait une maladie sévère, je pourrais prendre l'exemple de l'oncologie pédiatrique que je connais bien, la mortalité était de 100%.
100% de mortalité quand on avait un cancer enfant en 1901. Il y a une autre chose qui a beaucoup changé chez les familles, c'est le nombre d'enfants par famille. Est-ce que là, il y avait une appréciation du risque différente, une appréciation de l'enfance et du bien-être de l'enfant différent lié au fait qu'on avait un beaucoup plus grand nombre d'enfants par femme et donc par famille?
Alors c'est possible, il faudrait demander aux parents de l'époque évidemment ce qu'ils en pensaient, mais c'est possible, hein. C'est possible que si on avait 7, 8, 9 enfants, c'était, bon, d'une part parce qu'il y avait des mesures de contrôle de la fertilité qui est certainement très différente des méthodes actuelles, mais c'est aussi peut-être parce qu'on se disait que voilà, il fallait avoir plusieurs enfants, si deux ou trois devaient décéder, ben c'était mieux si on en avait encore trois ou quatre qui survivent. Donc il y avait peut-être cet aspect-là, mais c'est plutôt une hypothèse.
La médecine pédiatrique, à l'époque, elle était déjà très féminine, parce qu'après on va parler de 2026, et on va sûrement dire que c'est l'une des spécialités où il y a le plus de femmes, notamment aux responsabilités et un peu partout dans la pédiatrie. C'était déjà le cas en 1901?
Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, on n'y penserait pas, mais c'était le cas. Beaucoup de femmes ont été les premières pionnières de la médecine pédiatrique, que ce soit la pédiatrie générale. Je me souviens aussi dans ma spécialité d'oncologie, c'était une femme qui a créé la Société internationale d'oncologie pédiatrique. Il y a pas mal de temps, pas 125 ans, mais un petit peu moins. Et c'est vrai qu'aussi en Suisse, c'est souvent des femmes qui ont créé les premiers hôpitaux pédiatriques.
Si on parle de vos débuts, alors vous avez pas 125 ans effectivement, mais vous avez quand même une expérience dans la pédiatrie. Vous êtes diplômé en quelle année?
En 84 ou 5, je pense.
Qu'est-ce qui vous frappe entre 84 et 2026? Qu'est-ce que vous voyez particulièrement comme évolution de la médecine? Qu'est-ce que vous avez constaté avec vos yeux de cette histoire de la pédiatrie, histoire plus récente?
Alors, bon, j'ai eu la chance, effectivement, de vivre, je pense, cette phase d'accélération dans les connaissances, dans les méthodes diagnostiques, dans les possibilités thérapeutiques. Donc, la courbe, elle n'est pas du tout linéaire sur ces 125 ans. Mon impression, c'est qu'elle est plutôt assez plate au début et puis qu'elle s'est effectivement accélérée probablement dans les années 70, 80. C'est là qu'on a commencé vraiment à pouvoir apporter des traitements de plus en plus efficaces. C'est là qu'on a aussi développé des mesures préventives peut-être qui existaient, mais qu'on les a systématisées, qu'on les a offertes à toute la population. Je pense aux vaccins, par exemple, ces programmes de vaccination suisses, ces plans de vaccination, les méthodes diagnostiques, comme je disais, quand j'ai commencé. Moi, j'ai vécu le début des CT scans, hein, des scanners. Mmh. Il n'y avait absolument pas d'IRM. Aujourd'hui, on ne pourrait pas se passer de méthodes d'imagerie comme l'IRM. Si je pense à l'oncologie pédiatrique, en 84, il y avait peut-être une survie qui était autour de 50% déjà. C'était quand même pas mal par rapport à zéro auparavant. Mais en fait, on voit que actuellement, on est autour de 90%. Donc, dans ces 40 ans, les connaissances, les possibilités diagnostiques et thérapeutiques se sont extrêmement raffinées, je dirais. Et aussi, elles se sont mises à disposition, en tout cas dans nos pays, de l'ensemble des enfants. Ce qui est loin d'être le cas dans le monde entier, évidemment. Et ça, c'est une préoccupation qu'on peut avoir, je pense, comme organisation nationale aussi pour le futur.
Cette courbe exponentielle, on s'est aussi habitué à une médecine qui a la solution à tout, tout le temps. Est-ce que vous avez vu une attitude différente chez les patients, auprès des familles, sur la tolérance au risque et les attentes envers le médecin?
Certainement. Là, moi, j'ai surtout une expérience hospitalière à cause de ma spécialité. Donc, je connais un peu moins bien la médecine, disons, de cabinet, la pédiatrie de cabinet, mais je pense que c'est le cas. Je pense que la pression aussi, les attentes des parents ont considérablement augmenté. On a vu tout à l'heure le empowerment, ce terme qu'on aime beaucoup. Je pense qu'il s'est amélioré à travers l'éducation, mais qu'il est encore relativement restreint. Les familles se sont modifiées. C'est pas seulement le nombre d'enfants par famille qui a diminué, mais c'est aussi le lien peut-être à la génération d'avant, des grands-parents, qui a diminué. Donc, la possibilité pour les jeunes parents, avec leur premier enfant qui fait 38,5, 39 de fièvre, qui voit pas bien, qui pleure, d'avoir peut-être un conseil très avisé de la part de leurs parents à eux avant de consulter Dr Google ou les urgences de pédiatrie ou leur pédiatre, dans le meilleur des cas.
Docteur Google, on va en parler parce que ça, c'est sûr que c'est une grande évolution, ou Docteur ChatGPT maintenant plutôt. Docteur Google, c'est presque déjà ringard.
Obsolète, hein.
Oui. D'abord sur la dimension médecin-éducateur, ça ressemble un peu à ce que vous disiez avec la figure notamment tutélaire des grands-parents qui est plus là, aussi des parents qui peuvent être moins là. Est-ce que il y a une nouvelle dimension dans la pratique du pédiatre qui est le métier d'éducateur qui vient s'ajouter aux exigences qu'on a du médecin?
Je pense vraiment. À nouveau, là, effectivement, les collègues installés pourraient peut-être mieux répondre, mais je pense que c'est une grande partie de leur activité. Il est vrai que quand même la majorité des enfants sont en bonne santé, en fait, et que, de ce fait, une grande part de l'activité des pédiatres installés, c'est de surveiller la bonne santé de ces enfants, de la confirmer, et effectivement d'informer les parents, de leur donner des sources fiables d'informations, de discuter cette problématique des vaccins, qu'est-ce qui parle contre, qu'est-ce qui parle pour, de démonter certaines fausses anxiétés qu'on peut avoir, ou fausses craintes, ou fausses informations qui tournent autour de ce domaine, par exemple. Donc je pense qu'il y a beaucoup de temps qui est passé par les collègues dans leur cabinet pour ce genre d'activité qui malheureusement n'est pas extrêmement bien compensée sur le plan financier. C'est une des difficultés auxquelles ils sont confrontés. On ne rémunère pas beaucoup le dialogue en fait avec les parents, l'information, le temps passé aussi avec peut-être d'autres professionnels de santé qui se sont aussi développés au cours de ces années. Le pédiatre est plus tout seul. C'est plus le seul qui donne de l'information aux parents. Il y a les écoles, il y a les sages-femmes pour les tout petits bébés, il y a énormément d'autres professionnels de santé qui tournent autour, je dirais, de l'enfant en bonne santé comme l'enfant malade. Et là, le pédiatre reste quand même au centre, il reste quand même la personne de référence pour les parents.
Parlons de l'hôpital, vu que c'est un terrain que vous connaissez très bien. L'hôpital aussi s'est beaucoup modifié pour les enfants. Alors déjà, il y a eu l'apparition de l'hôpital pour les enfants, c'est déjà quelque chose. Et puis ensuite, il y a l'hôpital pour les enfants qui inclut mieux les parents, manifestement. Expliquez-nous cette évolution.
Ça, c'est un changement, je pense, très important et très favorable qu'il y a eu dans ces dernières années. Ces hôpitaux pédiatriques sont devenus vraiment des vrais hôpitaux pour enfants où tout le monde qui y travaille est orienté vers l'enfant, que ça soit le médecin, le chirurgien, l'infirmière, le physio, l'anesthésiste qui va ensuite prendre l'enfant en salle d'opération et l'endormir, les radiologues qui vont peut-être devoir faire aussi certaines procédures avant de faire leur IRM dans de bonnes conditions. Donc là, il y a un développement considérable, je dirais, qui est devenu plus child-friendly, plus family-friendly. Je pense que vous évoquez aussi peut-être l'idée de que les parents étaient de mieux en mieux accueillis, en fait.
C'est moins parent-taxi, hein. Il y a peut-être avant, c'était le parent qui déposait l'enfant puis qui partait.
C'est vrai, il y avait un certain temps, mais c'est vieux, hein. Je pense que moi, j'ai pas vécu ça, mais où les parents devaient quasiment abandonner leur enfant dans son lit et puis disparaître. On n'avait pas tellement envie de les voir tourner là autour. Et gêner le travail des infirmières et des médecins, ça a heureusement complètement changé. Et maintenant, les parents sont au lit de l'enfant, ils peuvent passer la nuit auprès de leur enfant, en tout cas un des deux parents. C'est devenu possible quasiment dans toutes les cliniques pédiatriques. Et évidemment, c'est extrêmement rassurant pour les enfants, on peut s'imaginer. Des parents aussi qui peuvent accompagner leur enfant jusqu'au seuil de la salle d'opération. Donc là, on a fait énormément de progrès. Et puis les parents sont aussi parfois, alors est-ce que c'est par manque de professionnels de santé, je sais pas, mais parfois ils sont impliqués aussi dans certains soins, disons, à leur enfant hospitalisé.
À l'hôpital. Ouais. Parlons de Dr Google. Avant de parler de Dr ChatGPT, racontez-nous l'apparition de Dr Google, parce que ça, vous l'avez vécu.
Oui, alors très clairement, et aussi dans des domaines, disons, très pointus, où on se dirait, bof, là, comme l'oncologie, par exemple, où quand même ces maladies sont, un, rares, deux, quand même complexes, complètement différentes de celles qu'on voit chez l'adulte. Donc on se dirait, bof, alors là, les parents sont des grands inconnus et ne connaissent vraiment pas grand-chose de ce domaine. Puis en fait, ça a vraiment commencé quand j'étais tout jeune assistant. Je me souviens de parents qui étaient venus d'Italie, avec leur enfant qui avait une tumeur cérébrale, et le papa avait un dossier comme ça épais. Alors là, il n'était pas encore vraiment Dr Google. Il avait recherché dans des bibliothèques, dans des publications papier, dans des articles. Il avait sorti tout ce qui concernait cette tumeur cérébrale, et puis il était venu nous consulter, évidemment pas moi, mais mon chef, pour avoir des informations. Donc ça, c'était un petit peu les premiers pas des parents qui eux-mêmes faisaient ces démarches complexes, un petit peu comme nous. Pour nous, c'était beaucoup plus compliqué de chercher l'information. Donc ensuite, il y a eu effectivement un peu l'explosion d'Internet, la facilité d'accès à ces données. Évidemment, pour nous, les professionnels, on sait un tout petit peu où aller chercher les bonnes informations, les bonnes études, les données, disons, contrôlées qu'on peut avoir. C'est plus difficile pour les parents, et c'est ça le grand problème, je pense, qu'on a eu avec Dr Google, c'est cette explosion des informations avec, pour des gens qui sont pas du métier, et parfois même pour nous, comme professionnels, la difficulté de distinguer l'orge de l'ivraie, disons, hein, le vrai du pas vrai, le fake news de l'étude de super qualité. Donc c'est quelque chose qui est apparu, c'est vrai ce que vous dites, c'est pas nouveau, c'est déjà un peu ancien et dépassé, mais disons c'est quand même, c'est pour ça cette courbe exponentielle, je trouve que c'est un bon exemple de voie de développement, parce que c'est peut-être il y a 10-15 ans, disons, hein, le début. Puis maintenant c'est déjà presque dépassé.
Est-ce que ça a challengé la confiance? Est-ce qu'on vous fait moins confiance maintenant qu'il y a Dr Google? Est-ce qu'on vous fait moins confiance maintenant qu'on peut aller vérifier des informations?
Je pense pas forcément moins confiance, mais on vient avec un certain nombre de préjugés parfois et d'attentes qui sont un petit peu extrêmes, je dirais, quasiment, ou fausses parfois. Et c'est un challenge pour nous, parce que il y avait vraiment cette époque, moi je me rappelle, où je commençais à apprendre le métier, où le professeur qui était là devant nous et qui travaillait avec nous, c'était un ponte, c'était un pape. On croyait absolument tout ce qu'il nous disait comme la Bible. Et maintenant, quand on donne un cours à l'université, on a des étudiants en face de nous, comme vous, là, avec leur laptop ouvert, avec leur iPhone, et on ne sait pas très bien s'ils sont contrôlés ce qu'on leur raconte, en fait. Et probablement que c'est le cas.
Avec l'intelligence artificielle, c'est juste le prolongement de ça, ou c'est quelque chose de différent?
Alors, je peux reprendre cet exemple, je pense, de cette courbe exponentielle. Hein. C'est un développement exponentiel des connaissances, et surtout, c'est justement par ces algorithmes, la mise en commun extrêmement rapide, la recherche et la mise en commun extrêmement rapide de ces connaissances, qui fait en plus encore, qui nous donne en plus une interprétation. C'est pas forcément les données brutes, comme dans une étude, puis c'est à nous de lire, puis c'est à nous d'interpréter les chiffres. Là, vous avez une interprétation qui vous est faite aussi, avec quelques hallucinations parfois, parce que on est quand même encore au début. Évidemment, un job qu'on doit apprendre, je crois, c'est de contrôler la véracité, la plausibilité des données et surtout aussi des interprétations qu'ils nous donnent.
Si on parle maintenant de la profession, les professionnels, comment est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce que le profil de celles et ceux qui s'intéressent à la pédiatrie a changé? Est-ce que les exigences de celles et ceux qui travaillent dans la pédiatrie a changé? Qu'est-ce que vous avez observé ces dernières années?
Oui, alors là aussi, il y a eu d'énormes changements. Je pense que dans le profil des professionnels, une des choses qui s'est énormément aussi développée, et c'est une bonne chose, c'est la spécialisation. Je pense qu'effectivement, au début, et même quand j'ai commencé comme jeune assistant, je parlais de ces professeurs qu'on avait. Ils avaient une vision extrêmement large, extrêmement large, complète de la pédiatrie. Ils pouvaient vous parler d'un nouveau-né comme d'un adolescent. Ils vous pouvaient parler de santé physique, de santé mentale. Donc c'était des gens qui avaient, en tout cas, qui donnaient l'impression de tout savoir en fait. Et ce savoir, ces connaissances se sont tellement développées dans les dernières décades que maintenant c'est impossible au fond. Et comme en médecine de l'adulte, le développement des spécialités pédiatriques a été quelque chose de très important, de rapide, et qui a, je pense, aussi joué un rôle maintenant très positif dans la prise en charge des enfants, dans l'amélioration de ces traitements. Vous savez qu'on parle maintenant de médecine personnalisée quasiment. Donc ça, ce n'aurait pas été possible sans que des spécialistes puissent être formés comme en médecine adulte, en fait.
Le risque, c'est de voir l'enfant à travers uniquement sa spécialité. C'est de voir, en fait, qu'une partie de l'enfant, plutôt que d'appréhender la globalité du patient. Comment est-ce qu'on évite ce risque-là à l'ère de l'hyperspécialisation?
Je crois que on a une chance dans la pédiatrie, c'est que même à cette époque actuelle de cette spécialisation très poussée, on garde la vision d'ensemble. Je crois que c'est différent, c'est une bonne chose aussi par rapport à la médecine adulte, où le cardiologue va voir son patient sur le plan du cœur, il va s'occuper des pulsations, de la pression artérielle, de l'ECG, il va faire peut-être quelques examens de laboratoire, mais tout est focalisé là-dessus. Il va être absolument peu intéressé en général aux autres domaines. Et je crois que dans la pédiatrie, alors pour la pédiatrie de cabinet, j'en suis persuadé que c'est le cas. Cette vision holistique, elle reste, mais elle reste aussi dans la médecine hospitalière. Et je pense que c'est un rôle aussi que nous avons maintenant. Peut-être je me mets du côté des anciens, de transmettre aussi cette nécessité de voir l'enfant non pas seulement à travers son prisme très étroit, oncologique, cardiologique, neurologique, mais de voir l'ensemble et au-delà de l'enfant, la famille. On reste une médecine de l'enfant, mais aussi de la famille, les frères et sœurs, les parents ou les responsables de l'enfant, parfois les grands-parents. On garde cette vision-là et moi, ça me plaît beaucoup et c'est aussi ce que j'essaie de transmettre aux collègues plus jeunes.
Dans les évolutions, il y a aussi le médecin davantage connecté. Donc, c'est connecté avec ses consoeurs et confrères. Ça, c'est le travail en réseau dont on peut parler. Mais avant ça, le médecin qu'on consulte de manière connectée, la télémédecine, qui là aussi est pas toute récente, est apparue cette dernière dizaine d'années. Finalement, le médecin est lui-même un peu devenu docteur Google, ou en tout cas est devenu le docteur numérique qu'on voit à travers une visioconférence.
Oui. Bon, il a encore un visage, heureusement, par rapport au docteur Google. La télémédecine, c'est quelque chose qui est pas non plus tout à fait nouveau. Je pense qu'elle s'est développée un petit peu sous deux pressions, je dirais. C'est d'une part, bien sûr, le Covid, à un moment donné où les familles avaient extrêmement peur de venir à l'hôpital avec leurs enfants parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient s'infecter à l'hôpital, alors qu'en fait, on avait très peu d'enfants malades et d'enfants contaminant potentiellement d'autres enfants. Donc là, on a eu des hôpitaux assez vides. Et c'était une très bonne possibilité quand même d'offrir un contact avec un médecin aux patients, entre autres avec des maladies chroniques, qui doivent avoir leur contrôle régulier, qui doivent avoir leur traitement. Ça a été certainement un des drives de cette télémédecine. Et puis l'autre, c'est un tout petit peu la problématique qu'on a du manque d'effectifs, hein, si on veut, de la surcharge d'une part des praticiens en cabinet et d'autre part des urgences pédiatriques. Donc il a fallu développer des stratégies pour un petit peu contrevenir à ces difficultés, à ces engorgements. Et la télémédecine a été un des moyens, disons. Et là aussi, alors l'intelligence artificielle joue un rôle, je pense, très positif. Ces algorithmes, ils apprennent avec le temps. Ils se sont améliorés. Moi, j'avais assez peur au début. Je pense qu'il y a 10 ans en arrière, j'aurais pas tellement voulu consulter un télémédecin pour mon enfant, personnellement. Mais je crois que les choses ont aussi beaucoup évolué là. Les formations des gens qui travaillent dans la télémédecine se sont améliorées. On a élargi le spectre aussi. C'est pas toujours que des médecins, c'est des infirmières en pratique avancée parfois, qui reposent leur diagnostic ou leurs évaluations aussi sur des algorithmes qui se sont améliorés. Et là, je pense que c'est un bon moyen aussi de pallier en partie à ce manque d'effectifs qu'on a.
Vous connaissez cette expression, il faut un village pour élever un enfant. Il y a l'expression aussi, il faut un village pour soigner un enfant. Ça, c'est la médecine en réseau. C'est l'idée que c'est plus un pédiatre qui vient soigner une personne, mais que c'est toujours davantage un réseau. Comment ça a évolué ces dernières années? Comment est-ce que les médecins se sont davantage connectés dans la pédiatrie pour travailler ensemble?
Alors bon, il y a les médecins entre eux, d'une part. Donc évidemment, la Société suisse de pédiatrie, là, qui fête ce jubilé cette année, je pense, joue un rôle en connectant les gens, en prenant en charge aussi leur formation, post-grad pour nos assistants, mais aussi continue, comme dans un congrès comme aujourd'hui, en mettant les gens en réseau, en leur donnant la possibilité de se rencontrer. Mais bien sûr, au-delà de la médecine pédiatrique, bien sûr qu'il faut évoquer les autres thérapeutes, les autres professionnels de santé qui gravitent autour de l'enfant en bonne santé ou malade. Et là aussi, bien sûr, avec le développement des moyens de communication qu'on a vu ces dernières 10, 15, 20 ans, on a facilité, je pense, ces contacts. Et on a aussi dû développer un certain respect pour des groupes professionnels, je pense aux sages-femmes par exemple, avec lesquels on a de bons échanges. On doit développer peut-être des collaborations avec certains pharmaciens, on doit améliorer nos collaborations avec l'école. C'est aussi un domaine où, bien sûr, les enfants se trouvent, et se trouvent une bonne partie de leur vie finalement. Donc l'échange avec les professionnels scolaires est devenu quelque chose de très important, aussi avec tous les petits problèmes qui peuvent apparaître à l'école. Je pense pas tellement à la santé physique, mais là plutôt à la santé mentale ou les problèmes, disons, sociaux qui peuvent apparaître là, et où le pédiatre tout seul n'arrive pas à résoudre le problème, évidemment.
Si on parle des 25 prochaines années, à votre avis, c'est quoi les défis qui vont arriver?
Alors, il y a quelques défis qui sont évidents, qu'on a déjà à présent devant nous. Entre autres, effectivement, ces manques d'effectifs, hein, on dit souvent, les pédiatres sont surchargés, il y a des espèces de déserts pédiatriques. Alors, on en parle plus en France peut-être encore qu'en Suisse, mais on a mandaté justement une étude récente par l'Institut de médecine sociale et préventive à Berne pour avoir un peu une idée en Suisse de la situation. On s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des disparités entre les régions, c'est tout à fait clair. Avec des campagnes qui sont moins bien desservies que des villes. Il y a des différences suisses-romandes, suisses-alémaniques, dans la densité pédiatrique, donc dans aussi la possibilité d'accéder à ces soins pour les familles.
Il y a plus familles. De densité en Suisse-alémanique ?
Un petit peu plus en Suisse-romande.
En plus
en Suisse-romande. Surtout dans les villes. En Suisse, en Suisse-romande, des déserts pédiatriques dans les régions de campagne. Donc ça, c'est certainement un challenge. C'est pas un challenge qui est très facile auquel il faut répondre, mais c'est pas tout à fait simple parce qu'il y a beaucoup de facteurs à considérer. Un autre défi où Pédiatrie Suisse s'engage beaucoup, c'est la problématique des tarifs. Actuellement, vous savez qu'il y a un nouveau tarif pour les prestations ambulatoires, le TARDOC qui a été introduit au début de l'année. Il est encore un peu tôt pour se faire une idée. L'idée globale des politiciens qui l'ont développé en collaboration avec aussi les médecins et les assureurs, c'était de revaloriser en fait la pas seulement la pédiatrie, la médecine de première cour, hein, comme on l'appelle, c'est-à-dire les généralistes, les pédiatres, les pédopsychiatres, les psychiatres aussi d'adultes, parce que ces prestations, comme je disais, le dialogue, les prestations d'échange avec les patients étaient certainement sous-valorisées par rapport aux actes. Alors effectivement, ce TARDOC devrait permettre une certaine amélioration. Les premières impressions qu'on a de nos collègues installés sont plutôt positives pour le moment, mais on est un petit peu en souci pour l'avenir, d'autant plus que le système prévoit une neutralité des coûts. Donc on doit se balader dans une certaine fourchette. On n'a pas le droit de tout à coup faire 20% de plus pendant des années. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait se retourner contre nous, contre les médecins de première cour dans un deuxième temps. Et je crois qu'un problème dont on a entendu parler dans les derniers talks ici, qui est pas seulement en relation avec le climate change, mais qui est vraiment un problème général, c'est la santé des adolescents. Là aussi, peut-être driving force le Covid, en tout cas un révélateur d'un problème de santé mentale chez les jeunes qu'on avait, je pense, ignoré ou pas vu vraiment, et qui a un petit peu explosé à la vue de tout le monde à ce moment-là. Avec, de nouveau, là aussi, le manque de professionnels ou un relatif manque de professionnels pour les prendre en charge.
Ces prochaines années, les pédiatres risquent d'être un peu désemparés par la santé psychique de leurs patients ?
Je pense que ça dépend beaucoup de la réponse qu'on va pouvoir apporter à ce problème. Si on arrive effectivement à former plus de monde, à améliorer l'accès, à améliorer les mesures de prévention aussi, j'ai quand même bon espoir qu'on puisse gérer la problématique. On voit que depuis l'épisode du Covid, bon, il y a eu une espèce de grand pic avec cette révélation du problème. La situation s'est peut-être un petit peu maintenant stabilisée. Là aussi, les gens ont dû se mettre en réseau entre les services ambulatoires, hospitaliers, de pédopsychiatrie. Je pense que le système est en train de s'adapter.
Merci beaucoup, Nicolas van der Weyde.
Je vous en prie.
C'était Fort pour les enfants, podcast sur le bien-être de l'enfant, avec Jonas Schneider. Le podcast de Pédiatrie Suisse est disponible sur toutes les plateformes de podcast courantes. Pour plus d'informations sur Pédiatrie Suisse et sur cet anniversaire, rends-toi sur paediatrischweiz.ch.